الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Ne faut jamais baisser les bras et se laisser abattre par les soucis et les problèmes de la vie d'ici-bas. Car le propre de la vie d'ici-bas, c'est justement qu'il y aura des problèmes en permanence. Tant que tu respires, tu es soumis à une loi divine qui est la même pour tout le monde, croyant ou non, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé. Cette loi divine, c'est la loi de l'épreuve. L'être humain sera éprouvé dans ce qu'il aime et dans ce qu'il n'aime pas. Il sera éprouvé en permanence et Dieu lui a donné les moyens de surmonter l'épreuve. Quels sont ces moyens? C'est la foi en premier et la gestion de l'épreuve. La foi, qu'est-ce qu'elle t'enseigne? Elle t'enseigne que tout ce qui vient de Dieu, c'est positif, car Dieu est bon, vous entendez? Et l'épreuve en elle-même, quand elle te plaît ou quand elle te déplaît, elle est toujours positive parce que la conclusion, c'est que tu seras récompensé dans les deux cas de figure. Tu seras récompensé si tu gères le bien comme il se doit, la reconnaissance, et tu seras récompensé si tu gères le malheur comme il se doit avec la patience. Dans les deux cas de figure, le croyant s'en sort gagnant. C'est pour ça que la posture spirituelle du croyant est étonnante. Personne ne lui ressemble parmi les autres êtres humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le hadith rapporté par Muslim, d'après Sohaib Rumi, le croyant est un être qui sort de l'ordinaire. Lorsqu'un bien le touche, il est reconnaissant. Il n'attrape pas la grosse tête. Vous entendez? Il ne tombe pas dans l'orgueil et la vanité. Il sait que ça vient de Dieu. Lorsqu'un malheur le touche, il est patient. Il sait aussi que ça vient de Dieu et que Dieu l'éprouve parce qu'il l'aime. Et cela, ce comportement, ces réactions, sont le propre du croyant. D'un air de dire, celui qui ne croit pas en l'au-delà, celui qui ne croit pas en la puissance et en la sagesse de Dieu, automatiquement, vous savez ce qui lui arrive? Il abuse des biens qui existent sur terre, il les gère mal, et les malheurs l'abattent. Et direct, il va voir un médecin, et le médecin lui dit, tu as une dépression, c'est ça? Il lui donne des antidépresseurs. Antidépresseurs, c'est de la drogue. Ce sont des médicaments qui ont pour objectif, eux, de quoi? De tuer vos nerfs, de vous maintenir en léthargie, hein, un légume, d'accord? Alors ça marche avec certains, avec d'autres ça marche pas du tout, ou c'est en dents de scie, ça part et ça vient. Il y a une solution qui est beaucoup plus simple, vous savez laquelle? C'est l'intelligence, c'est-à-dire une bonne analyse de la problématique. Et ça c'est propre au croyant, comme dit le prophète, alayhi salam. Vous entendez? Le croyant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le choix de Dieu est meilleur que le mien. Le croyant dit, Asan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestiez quelque chose, et cette chose que vous détestez est le bien en personne. Il se peut que vous aimiez quelque chose, que vous ayez envie de quelque chose parce que vous pensez que cette chose est utile et intéressante, et c'est le mal en personne. Mais comme nous ne connaissons pas l'avenir, alors l'être humain, malheureusement, réagit avec la passion et non pas la raison. C'est pour cela. Le croyant doit toujours garder la tête sur les épaules. Et c'est quoi cette tête sur les épaules? C'est tu dois toujours voir ce qu'il y a derrière le rideau. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? La volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est meilleure que toute chose. Ainsi, l'être humain, durant toute sa vie, il sera éprouvé de deux manières. Par la tristesse, c'est-à-dire des malheurs vont le frapper, ils vont l'attrister. Et par les soucis. Toute sa vie sera un cumul et une addition de soucis. Comment gérer la tristesse? La tristesse se gère avec quoi? Avec deux choses. La première, toujours se faire référence à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Et ce que Dieu fait est meilleur que ce que moi je fais. Et deuxièmement, la patience et le temps. Car avec le temps, plus tu t'éloignes du moment où tu as pris le choc, la tristesse, elle a commencé, plus tu vas oublier et tu vas la tristesse, elle va diminuer. Ça, c'est pour la tristesse. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le vrai patient parmi les humains, c'est celui qui gère le premier choc. Vous entendez, hein, lorsque le malheur le frappe, ben il le gère bien. Hein, lorsqu'on lui annonce, je sais pas, par exemple, qu'il n'a pas eu son examen, ben qu'est-ce qu'il fait? Il garde la raison et il dit Alhamdulillah, oui, je ne l'ai pas eu, j'ai fait le nécessaire. Si je ne l'ai pas eu, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. Et la bonne raison, si je ne la connais pas, ça ne doit pas créer chez moi, je ne dois pas être déstabilisé. Ouais. Dieu sait ce qu'il fait. Je comprendrai plus tard. Hein, le jour où le rideau sera levé, là je vais dire « Heureusement, Allahu Akbar, je l'ai échappé belle. » Donc, le vrai patient, c'est celui qui, lorsqu'il reçoit le choc, la douleur de l'épreuve, garde la raison. Il n'est pas déstabilisé. Et il sera récompensé en fonction de sa réaction. Vous entendez? Celui qui s'emporte et celui qui se soulève contre la volonté de Dieu va souffrir et ne sera pas récompensé. Celui qui patiente sera récompensé et il gérera sa souffrance de manière à ce que cette souffrance ne l'abatte pas. Mais les deux ont été touchés et atteints. Ça, c'est la tristesse. Deuxième chose qu'il faut gérer, c'est les soucis. Des soucis, on a tous les jours. Des soucis de santé, des soucis dans la famille, l'argent, les relations, etc. Les soucis, ça se gère, c'est-à-dire il faut combattre. Hein? Les problèmes, il faut les résoudre. Les obstacles, il faut les surmonter. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite une bonne analyse déjà. Il faut bien penser, réfléchir, comprendre d'où vient le problème, il est dû à quoi. Et ensuite, apporter les bonnes solutions. Vite, il ne faut pas laisser traîner. Si vous laissez traîner, ça vous ronge. Ouais, ça vous ronge. Et subhanallah, le propre de l'être humain, c'est quoi? C'est qu'il est en permanence perturbé, dérangé par les soucis. C'est pour ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les deux prénoms qui collent le plus à la nature de l'homme sont Harith et Hammam. Harith veut dire le cultivateur, le bosseur, le travailleur. Hein, le propre de l'homme, c'est quoi? C'est que tant qu'il tient debout, il sera obligé de faire des efforts, même pour manger. D'accord? Et le propre de l'homme, c'est qu'il sera en permanence attaqué par quoi? Par les soucis de la vie. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Regardez la suite. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, entre dans la mosquée et trouve un de ses compagnons qui s'appelle Abu Umamata al-Bahili. Et c'est pas l'heure de la prière, le matin. Qu'est-ce qu'il fait à la mosquée? Le prophète le questionne. Comment se fait-il que tu es à la mosquée à 7 heures alors que tu devrais être ailleurs occupé? Il lui dit, prophète, j'ai des soucis. Et ces soucis m'handicapent. Hein? J'arrive plus à rien faire, je suis pris. Et il fait part de ses soucis au prophète, alayhi salam, et le prophète va lui donner le remède. Quel remède il lui donne? Il lui donne le remède le plus important pour régler ses problèmes. C'est lequel? C'est le remède psychologique. Il n'est pas parti lui, je sais pas, par exemple, un truc tout bête, hein, il a une dette, il n'est pas parti lui ramener de l'argent, quoi que le prophète le fait. Non, non, non. Il va d'abord lui donner un vaccin pour la prochaine fois au cas où à nouveau il aurait des soucis. Et il va lui apporter la solution numéro un au souci qui est la posture psychologique de l'être humain quand il est atteint par le souci. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu dois prononcer tous les matins, à 3 reprises, pas une seule fois, donc il faut insister, et tous les soirs, des paroles qui justement vont te permettre de toujours garder ta raison spirituelle en éveil. Allahumma inni a'udubika min al-hammi wal-hazan. Ô Seigneur, protège-moi. Donne-moi la force de résister et de combattre quoi? La tristesse et les soucis. Vous avez vu? C'est de ça dont on a besoin. Hein? On a besoin d'une force spirituelle, psychologique, pour pouvoir combattre, résister à la tristesse et aux soucis. La suite, c'est quoi? Et demande à Dieu de te préserver, de te protéger de quoi? Al-ajzi ou al-kasal. Parce que celui qui n'arrive pas à combattre les soucis, à régler ses problèmes, il va tomber dans quoi? Il va tomber dans l'impotence, l'incapacité. Il va baisser les bras. Hein, il va devenir un légume. Il n'a plus la force de résister ni de combattre. Et automatiquement, il va devenir fainéant. Il ne va plus agir. Il va se laisser mourir. Pourquoi? Parce que il est mort psychologiquement. Donc le prophète nous dit, attention, vous n'arriverez jamais à combattre la tristesse et les soucis si vous n'avez pas de la volonté, si vous n'avez pas du courage, si vous n'avez pas de la force. Il ne faut pas se laisser abattre, au contraire. Il faut toujours être en forme psychologiquement pour pouvoir passer au-dessus des problèmes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, demande à Dieu de te protéger contre quoi? El-joubnou ou el-boukhl? La lâcheté, l'avarice. Le croyant ne doit pas être lâche. Il doit être téméraire. Il doit assumer. Il ne doit pas être avare. Il doit être capable de donner, de dépenser dans tous les domaines. Vous savez ce que dira Abu Umamat al-Bahili? Elle dit, ces paroles que le prophète m'a enseignées ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Je l'ai répété 3 fois le matin, 3 fois le soir, et j'ai été imprégné des notions psychologiques et spirituelles que renfermaient ces paroles, c'est-à-dire qu'il les a bien comprises, et mes soucis et mes tristesses ne pouvaient plus résister devant quoi? Devant ma force spirituelle. Hein? Il arrivait à régler ses problèmes, il arrivait à passer au-dessus de tout cela. Donc, notre vie sera faite. Ouvrez bien vos oreilles, ne rêvez pas, parce que c'est une épreuve de soucis et de tristesse. La problématique, c'est comment les régler, comment les surmonter. La solution, vous savez, c'est quoi? C'est être fort à l'intérieur. D'accord? Être fort. Garder la tête sur les épaules, la raison. Et quand je dis la raison, c'est pas seulement l'intelligence, mais c'est aussi la raison spirituelle. Et vous allez voir que la vie, elle va passer. Alors autant qu'elle passe la tête haute avec le sourire, vous entendez? Et les problèmes, ben on les gère. Ils ne doivent pas nous abattre. On ne doit pas baisser les bras. Ou sinon, si on baisse les bras, on se laisse aller, on va mourir avant l'âge. Et subhanallah, regardez combien de gens attrapent des maladies incurables. On les appelle les maladies psychosomatiques, c'est ça. Hein, les maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, le corps tombe en panne parce que la tête ne fonctionne plus comme il se doit. Si tu es bien dans ta tête, ton corps va suivre. Si tu n'es pas bien dans ta tête, tu vas le rendre malade ton corps, tu vas le faire souffrir. Et qu'est-ce qui nous empêche d'être bien dans la tête? C'est la tristesse et les soucis. Alors combattons-les avec quoi? Avec le remède prophétique qui est dans ce hadith extraordinaire qui nous enseigne que l'être humain doit être fort. Le croyant fort est meilleur aux yeux de Dieu et préférable que le croyant faible. Vous entendez? Et la force la plus importante, c'est la force spirituelle et la force psychologique. Donc vous avez tous remarqué, hein, les vacances sont là, il faut les gérer. On en a parlé plus ou moins la dernière fois, mais juste une parenthèse pour ceux qui vont devoir partir. Avant de partir, prenez le guide du routard islamique, n'est-ce pas? Parce qu'on a tendance malheureusement à aller dans des endroits et à ne pas nous diriger comme il se doit. On a tous vécu ça pour ceux qui sont assez âgés aujourd'hui. Quand on était gosse, quand nos parents nous prenaient au bled en voiture, on traversait la France, on traversait l'Espagne. Et malheureusement, ils ne se sont jamais arrêtés pour visiter les vestiges. Les vestiges de l'humanité et les vestiges de la communauté musulmane d'antan en particulier. Alors Allah ybarfikoum, si vous devez aller vers le sud de l'Europe pour arriver vers le nord de l'Afrique, n'hésitez pas à mettre le frein à main et à vous arrêter, hein, dans des villes où il y a des vestiges, surtout en Espagne. Parce que vous savez que l'Espagne, le Portugal, les îles Baléares étaient musulmanes pendant plus de 8 siècles. Donc arrêtez-vous, ouais, prenez le guide du routard et puis regardez les endroits qui valent la peine d'être visités. Il y en a, Cordoue, Grenade, Séville. Comme ça, vous allez transmettre à vos enfants une culture, mais surtout, vous allez leur rappeler l'héritage de leurs ancêtres. Et ensuite, quand vous allez arriver là-bas, dans les pays musulmans, là aussi, faites du tourisme intellectuel. Non, on a tendance malheureusement, quand on part en vacances, c'est que de la détente et de l'amusement. Marier l'utile à l'agréable. Il y a des sites historiques qui sont nécessaires de visiter. C'est Dieu qui les dit dans le Coran. Qul siru fil ardi fanzuru. Vous entendez? C'est un ordre. Allez, voyagez sur terre. Pourquoi? Pour visiter et observer. Observer quoi? Observer les vestiges. Vous entendez? De qui? Des communautés qui vous ont précédé. C'est très important. Connaître l'histoire pour pouvoir comprendre le présent et se projeter dans l'avenir. Secondo, il y a une manière de voyager. Hein. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a tout enseigné. Alors avant de partir, vous prenez par exemple le jardin des vertueux, Riyad Salihin. Vous regardez chapitre le voyage, comment le prophète voyageait. Qu'est-ce qu'il disait avant de partir sur la route, qu'est-ce qu'il faisait. Vous n'avez pas le droit de vous engager dans une affaire de ce bas monde ou de l'au-delà sans avoir au préalable consulté Dieu et son prophète. Ça s'appelle Adab al-Safar, les règles du voyage en islam. Hein, il y a des règles, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Comme ça, votre voyage, Inch'Allah, sera un voyage d'obéissance. C'est-à-dire, vous allez voyager tout en étant et en restant musulman. Vous allez gagner des hasanats, vous allez appeler à Dieu et à son prophète. Alors que si vous partez comme monsieur X ou Z, bah, vous aurez passé peut-être 15 jours, 3 semaines de vacances, ce qui est bien en soi parce que vous êtes détendu, mais spirituellement, religieusement, au niveau hasanat, vous n'avez rien gagné. Alors qu'il suffit d'assimiler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage, et vous allez voir que votre voyage se transforme en moment d'adoration, bien qu'il soit un moment de détente. Donc impérativement, toute personne qui doit voyager doit consulter Dieu et le prophète pour voir comment voyager dans les règles de l'art islamique. En vous souhaitant, Inch'Allah, de bonnes vacances pour ceux qui partent et un bon retour, puisque n'oubliez pas de revenir. Les vacances, c'est momentané. Le plus important, c'est de rentrer en forme, Inch'Allah, pour être encore plus utile lors de votre retour. Qu'Allah vous protège dans votre voyage et protège vos enfants. Qu'Allah fasse que vous gardiez la foi pendant cette période qui n'est pas du tout évidente parce qu'on est tenté par beaucoup de péchés, puis on est tenté aussi par le laisser-aller et l'oubli. Qu'Allah nous préserve du diable invisible et du diable visible parce qu'ils seront nombreux, vous verrez. Hein, ils vont sortir toutes les armes possibles et inimaginables pour vous égarés pendant ces vacances. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azab an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.